bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, bonjour à tous. La rétrospective de votre actualité de la semaine, on a parlé de la pénurie de beurre et des djihadistes. Voilà ce qui a occupé la une de l'actu. Mais d'abord, il n'y en aura pas pour tout le monde. Le gouvernement a dévoilé cette semaine sa réforme de l'entrée à l'université. Jusqu'à présent, seul le bac suffisait pour s'inscrire dans la filière de son choix. Problème, certaines filières sont plus demandées qu'elles n'offrent de place. Et depuis quelques années, les universités pratiquaient alors le tirage au sort pour résoudre ce problème d'embouteillage. Les places étaient donc données au hasard, indépendamment du niveau scolaire et des motivations des futurs étudiants. Le gouvernement supprime donc le tirage au sort et instaure une sélection qui ne dit pas son nom, car le bachelier se verra répondre soit oui à sa demande d'inscription, soit oui si, dans ce dernier cas, pour les filières très demandées, si l'université estime que le candidat n'a pas les attendus requis pour accéder à la formation, il pourra suivre une année préparatoire dans la filière choisie. Enfin, si dans une filière, le nombre de places est insuffisant, le candidat sera placé sur liste d'attente derrière des profils plus favorables. Il y en aura plus pour tout le monde non plus. La Légion d'honneur, leur nombre sera fortement réduit à compter de l'année prochaine et les futures promotions devront ressembler à ce qu'est la France et tenir compte des critères de parité et de rajeunissement, a expliqué le porte-parole du gouvernement cette semaine, Christophe Castaner. Bref, on la donnera autant aux hommes qu'aux femmes, on la donnera à plus de jeunes. Voilà une réforme qui ne coûte pas cher. On n'a pas la Légion d'honneur à l'usure ou par copinage, a défendu le porte-parole du gouvernement. Les djihadistes ont été de nouveau à la une cette semaine avec cet attentat à New York, 8 morts par un camion bélier, attentat planifié depuis un an, le jour d'Halloween pour être sûr qu'il y ait beaucoup de gens dans les rues. Il a été le fait d'un loup solitaire, un ouzbek entré aux États-Unis avec une green card qui avait prêté allégeance à l'État islamique. Le loup solitaire, voilà la menace indétectable, le cauchemar des services de renseignement. Et en France, on voit le retour de plusieurs centaines de djihadistes qui, après avoir combattu en Syrie et en Irak, où l'État islamique a subi des revers militaires, eh bien reviennent dans l'Hexagone. Certains sont déjà revenus. 130 sont en prison, mais 110 sont en liberté sur le sol français. Laurent Wauquiez, le futur président du Parti Les Républicains, réclame leur enfermement immédiat. Plus radical, Éric Ciotti, député Les Républicains, refuse leur retour. Ceux qui ont trahi notre pays, qui se sont engagés pour détruire notre civilisation, ils ne peuvent pas rentrer en France. Plus radical encore, la ministre des Armées, Florence Parly, a estimé il y a quelques jours que s'ils mouraient là-bas, c'était tant mieux. Enfin, dans notre vie quotidienne, la pénurie de beurre dans les supermarchés, elle est le résultat de la guerre des prix, dénonce Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture. Les supermarchés ne veulent pas en fait répercuter la hausse des prix sur le consommateur. Les prix qui sont à la hausse du côté des transformateurs, puisque eux-mêmes payent plus cher le lait aux agriculteurs. Sauf que la grande distribution ne veut pas faire l'effort de répercuter à son tour. Alors, les transformateurs vendent le beurre à l'étranger où il y a des prix plus rémunérateurs. Conséquence mécanique, il y a moins de beurre en France. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end avec nous.
La météo de votre région sur RVE.
La météo en ce dimanche, c'est un ciel perturbé avec certes des éclaircies dans la journée, mais aussi de grosses masses nuageuses qui donneront lieu localement à quelques averses. Quelques rafales de vent à plus de 45 km/h et des températures qui ne dépasseront pas aujourd'hui les 10 degrés. Bonne journée sur RVE.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver donc en ce premier dimanche du mois de novembre, la tradition oblige naturellement. C'est Tribune Foot, un riche programme encore ce matin avec naturellement un retour sur la semaine de Coupe d'Europe, le championnat de France de Ligue 1, la Coupe de la Ligue et puis l'équipe de France hein, aussi, puisqu'on ne s'était pas vu depuis donc les derniers matchs de l'équipe de France. Alors ce matin, on a beaucoup de nos intervenants en congé, mais on a aussi une équipe pour la relève. Alors on va d'abord saluer les habitués. On va saluer d'abord celle du Paris Saint-Germain, Juliette Trouvel. Comment ça va, Juliette?
Ça va, très bien, très très bien.
Bon, tout va bien pour le PSG en tête du championnat et puis en Coupe d'Europe.
Oui, ça va très bien, mais restons prudents, hein, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver.
On va reparler de tout ça. Il est aussi ravi du début de saison de son club fétiche, c'est Arnaud. Salut Arnaud, ça va?
Ça va très bien, donc faut pas le dire trop fort que je supporte le Paris Saint-Germain, c'est un petit secret, mais oui, la saison s'accélère et nous aussi.
D'accord, c'est très bien. Allez, Edouard, Paris Saint-Germain va bien?
Oui, ça va, c'est comme moi, ça va.
Eh bien, ils sont venus assurer la relève. On va commencer en par un rémois de cœur, Jean-Pierre Baquet. Ouais. Salut Jean-Pierre, ça va?
Salut, ouais, ça va, supporter du stade de Reims, donc... Ouais. Tout baigne en ce moment, pourvu que ça dure.
Bon Jean-Pierre, on vous avait eu là dans nos studios il y a quelques années, en tant que conseiller municipal. Ouais. Ça va, ça a changé. Hein.
Ouais, ça a changé, je suis à la retraite maintenant. Donc, mais on s'est lancé avec Bruno Pasco sur un nouveau projet, donc on espère que ça va marcher. Quoi.
Il viendrait nous en reparler dans d'autres domaines, d'accord. Ok, il est toujours vert de cœur, c'est notre ami Bruno Pasco. Ça va Bruno? Tiens, Bibi est aujourd'hui au Chaudron pour le grand derby du soir, donc c'est le relais aujourd'hui. Hein.
Eh bien écoute, oui, toujours supporter des Verts, bon, moi ça va, mieux que les Verts, alors j'espère et je croise les doigts pour que le derby soit en notre faveur, mais j'ai un peu de... quelques angoisses.
Mais c'est vrai que ça joue mieux côté lyonnais actuellement.
C'est vrai, sur la prestation en Coupe d'Europe des Lyonnais, on doit leur tirer notre chapeau, très bon résultat pour eux. Et nous, Stéphanois, c'est pas tout à fait la même chose.
Voilà, et puis il débute dans le journalisme depuis 2 mois. Hein, c'est sa première radio. C'est notre ami qui va se présenter.
Voilà, Benjamin.
Benjamin, voilà, j'ai oublié le prénom, pardon.
Benjamin, merci Philippe pour l'invite. Donc moi, côté presse, je travaille pour le Républicain Essonne. Mm-hmm. Et vous pouvez me retrouver aussi sur le web, sur le site ostade.fr, qui a aussi son application, voilà.
D'accord, très bien. Donc je l'ai dit, on va parler naturellement de tout ce qui s'est passé durant ce mois de compétition entre octobre et puis novembre. On va commencer avec l'équipe de France. Donc un petit mot sur l'équipe de France. On vous avait dit que l'équipe de France allait se qualifier, hein, l'équipe de France donc qui est allée gagner en Bulgarie, on l'avait d'ailleurs pronostiqué 1-0, qui a battu ensuite la Biélorussie 2-1. L'équipe de France donc qui pour la sixième participation consécutive en Coupe du Monde. Bruno.
Les Français nous ont fait plaisir, parce qu'on avait aussi quelques craintes. Hein. On pouvait, au vu des derniers résultats, se poser certaines questions. Mais on va dire qu'ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot. Donc maintenant, reste les matchs de préparation. On va voir ce qu'il en est. Et puis, on espère un parcours de l'équipe de France en Russie pour 2018. Avec, j'espère, de bonnes surprises.
Bon, Bruno, on est des anciens des matchs, on en a vu et vu. C'est pas nouveau que cette équipe de France assure difficilement ses qualifications dans les éliminatoires.
Alors, c'est vrai qu'on aime bien se créer des difficultés, se faire peur. Et puis, comme à chaque fois, quand on est face au mur, on prend conscience que il faut, comme on disait dans le temps, mouiller le maillot et puis obtenir un résultat, ce qu'ils ont fait. Maintenant, je demande à voir... ce que nous réserve notre ami Deschamps et ses compositions d'équipe. On aura déjà des test-match contre l'Allemagne, on va voir un petit peu ce qu'on vaut.
Et le Pays de Galles vendredi prochain.
Et le Pays de Galles vendredi prochain, on va voir contre des équipes un peu plus consistantes ce qu'on est capable de faire. Mais encore une fois, attention, ce sont des matchs amicaux et on n'a pas le même retour sur un match amical que sur un match de compétition.
Il y a Deschamps qui a été reconduit jusqu'en 2020, c'est une bonne chose pour vous?
Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a des compétences. Il a déjà prouvé par le passé qu'il était capable de mener des équipes à de bons résultats. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même fait la finale du championnat d'Europe chez nous là, en 2016 et que malheureusement, face au Portugal, on a perdu 1-0. Mais bon, je pense que là, ça a été un peu aussi sur le fil du rasoir et on aurait très bien pu gagner cette finale. Donc oui, Deschamps, on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis je pense qu'avec le charisme de Deschamps, il faut ce genre de personnes à la tête de l'équipe de France pour les emmener à cette coupe du Monde 2018.
On ne sait pas prendre un risque, on a vu l'exemple Roger Lemaire quand même, en 2002.
Alors oui, Roger Lemaire qui succédait, si j'ai bonne mémoire, à Aimé Jacquet, qui a eu aussi sa période de réussite. Mais je pense que le charisme de Deschamps, avec les joueurs actuels et la nouvelle conception du football, la nouvelle façon de voir les choses, et à mon avis la personne la mieux adaptée à l'heure actuelle pour conduire l'équipe de France.
Jean-Pierre, l'équipe de France donc qui ira pour la sixième fois consécutive au Mondial.
Non, mais pour moi, très bon parcours de l'équipe de France. Je me suis jamais trop inquiété, même s'il y a eu des périodes plutôt négatives les deux derniers matchs. Mais je pense que Didier Deschamps fait un très 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 bon travail. Je suis personnellement satisfait qu'il ait été renouvelé. D'ailleurs, je voyais pas l'intérêt de changer d'entraîneur à ce moment-là. Et puis il a un groupe et il appelle des jeunes. Je crois qu'il a appelé encore deux jeunes pour les matchs de la semaine prochaine. dont un qui était pour moi inconnu, Omzoni ou je sais plus comment.
Omzoni et Pavard. Ah,
c'est ça. Pavard, on le connaissait, mais l'autre, on le connaissait moins. Non, je pense qu'il fait du très bon travail. C'est un très bon manager et puis il a un très bon staff autour de lui. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour moi.
Bon, Arnaud, c'est vrai que cette équipe de France, bon, elle y a pas mis la manière, hein. On a souffert, mais enfin, l'essentiel, il est là.
Oui, on a souffert. Bon, l'essentiel, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. Après cette semaine, j'étais à la conférence de Didier Deschamps à l'annonce de la liste. On découvre Pavard en défense centrale, c'est une grosse surprise. Donc ça voudrait dire que déjà Deschamps ne connaît pas le réel poste de Benjamin Pavard. Pavard, c'est un joueur arrière central de formation qui joue arrière droit de temps en temps à Stuttgart. Non, excusez-moi, c'est le contraire. Donc voilà, Deschamps ne sait pas que Benjamin Pavard joue maintenant en défense centrale, il le prend comme un arrière-droit. Donc s'il le prend comme un arrière-droit, ça voudrait dire qu'il le prend après Korchia, qui est, selon tous les observateurs, meilleur. Et il va le prendre comme un cinquième défenseur central. Donc visiblement, c'est comme un arrière-droit, mais si c'était comme un défenseur central, il le ferait passer dans la hiérarchie devant Clément Lenglet et devant Aymeric Laporte. Voilà, Deschamps, il y a des choix contestés. Est contestable. On va prolonger un sélectionneur dès maintenant sans jouer une Coupe du Monde. Donc, si ça se trouve, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise en Russie de sortir au premier tour. Et on va aller te prolonger un entraîneur qui, pour le moment, n'a pas joué le mondial, qui peut passer à côté de son mondial, son équipe avec. Donc, il y a de très nombreux choix contestés. On va revenir sur.
C'est une grande première, hein, d'ailleurs.
Ben, c'est une grande première et c'est ridicule. Dans toutes les grandes nations européennes et mondiales, il n'y a pas ça. On n'a pas ce genre de. On n'a pas ce genre d'annonce aussitôt avant même de jouer une compétition. Donc voilà, si ça se trouve, la France va rater son mondial et on va garder un entraîneur qui n'aura pas assuré pleinement ses fonctions.
Monsieur, vous en pensez quoi ?
Après, moi, on se contente d'une qualification qui n'était pas si facile que ça. Après, j'aurais voulu voir l'équipe de France dans un groupe comme l'Italie. Là, aujourd'hui, notre groupe était clairement faible. Les Pays-Bas, c'est plus les Pays-Bas d'antan. La Suède, on sait comment ils nous battent. Après, moi, j'aurais voulu voir une meilleure adversité dans notre groupe. Là, on se contente du minimum. C'est, je veux dire, assez français en ce moment. Deschamps, aujourd'hui, s'il nous envoie dans le mur à la Coupe du Monde, on pourra rien faire. On sait que l'entente avec le RET est parfaite aujourd'hui. On n'a peut-être pas de solution de repli aujourd'hui, en attendant peut-être Zizou plus tard. Mais aujourd'hui, je trouve que la prolongation de Didier Deschamps est assez prématurée.
Juliette ?
Oui, Zizou plus tard, je crois qu'il faut arrêter. Hein. Pour le moment, on a un entraîneur, on fait avec l'entraîneur qu'il y a. S'il réussit, il restera. S'il ne réussit pas, ben, il partira.
Mais le problème, c'est trop tard.
Mais
il est prolongé, on va prolonger de 2 ans supplémentaires avant même de jouer une compétition.
Mais oui, mais ça ne gêne en rien. Puisque quand il le jouera, si ça ne passe pas bien, ben, il partira. Ouais, vous êtes en train de faire le procès de quelqu'un qui va être pour 2020, non. Il va passer là pour moi, et puis après, on ne peut pas changer comme ça d'entraîneur à n'importe quel moment. Il est prolongé, on fait avec lui, il n'a que des jeunes, il essaye un petit peu de les mettre dans la possibilité de fonctionner. C'est comme tu viens de dire, Pavard. Eh bien voilà un jeune, s'il peut jouer ailleurs encore pour dépanner s'il a besoin de lui, ils sont à l'entraînement, c'est lui qui voit ce qui se passe.
Pavard, c'est le défenseur central de Stuttgart. Stuttgart, ils sont 13e du championnat de Bundesliga, c'est 16 buts encaissés. Là, il y a une
peu importe, on n'est pas à Stuttgart, on est en France. Et si toutefois ça se passe bien, ben vous allez sauter au plafond en disant ben oui, il a bien fait de le faire. Et ben il fait comme il entend, c'est lui qui est sur le terrain avec les jeunes.
Sauf qu'à son poste, il y a des joueurs qui méritent bien plus d'être sélectionnés. Encore une fois, s'il prend Pavard en tant qu'arrière droit, c'est ce qui a été fait, il a annoncé cette semaine, il prend Pavard en tant qu'arrière droit alors qu'il joue en défense centrale. Oui. S'il le prend en tant qu'arrière droit, Sébastien Korchia est au-dessus. S'il le prend en défense centrale, il y a Aymeric Laporte qui tape à la porte. C'est le cas de dire qui tape
tous,
à la porte de l'Espagne. Laporte le mérite plus. Clément Lenglet fait
un bon choix
dingue avec le FC Séville et il ne va pas prendre Clément Lenglet.
S'il y a 3-4, il choisit un ou deux et puis les deux autres, ça viendra par la suite.
Il y a des problèmes. Il y a d'autres problèmes que le foot, donc de comportement. Donc il a peut-être raison de ne pas le sélectionner. Quoi.
Et Clément Lenglet ?
Clément Lenglet, je sais pas.
Clément Lenglet fait une saison absolument parfaite avec le FC Séville.
Mais il ne faut pas s'arrêter à la saison.
Il y a d'autres possibilités. On prend Benjamin Pavard pour son début de saison.
Prenons Evra pendant qu'on y est aussi.
Alors moi, si je peux me permettre une petite remarque, ayant été défenseur une bonne partie de ma carrière, moi ça me fait doucement rire. À partir du moment où tu es footballeur et que tu as des positionnements défensifs, jouer dans l'axe vous jouez latéral à partir d'un moment si sont, bon effectivement un bon pied alors
ça n'a rien à voir
les latéraux sont plus offensifs
voilà aujourd'hui
les effectivement aujourd'hui, on voit des latéraux comme d'éventuels attaquants. Seulement, on oublie une chose, c'est qu'on voit aussi souvent ces éventuels latéraux attaquants oublier de redescendre et défendre, faire leur boulot premier. Donc à partir du moment où le gars, il a un poste défensif dans une équipe, qu'il soit central ou latéral, à partir du moment où s'il a, parce que, excusez-moi, mais à leur niveau, j'espère qu'ils ont deux pieds, hein, que le mec, il joue pas que du pied gauche ou du pied droit, bon, je vois pas où est la problématique. Ouais. Quant à revenir à Deschamps, effectivement, mettre qui à la place et pourquoi, et on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve. Et moi, Monsieur Zidane, pour pas le nommer, je demande à voir un monsieur comme tel avec une équipe qui n'est pas forcément celle du Real de Madrid. Et faire avancer des chevaux, des purs sangs, c'est plus facile que de faire avancer des chevaux de labour. Donc je demande à voir.
L'équipe. Après, la question, c'était pas de se demander qui remplace Deschamps, c'est de se dire pourquoi le prolonger maintenant. Après, on aura le temps de voir. Après, pour rebondir sur Zidane, il a peut-être une équipe de cadres, mais aujourd'hui, il vient d'enchaîner. Une deuxième Ligue des Champions, personne ne l'a fait. Il vient d'enchaîner un doublé. Aujourd'hui, il a peut-être un coup de mou, mais les entraîneurs qui étaient avant lui, des grands noms comme Mourinho, pour citer que lui, ils n'ont pas fait aussi bien.
Bon, en tout cas, je vais vous donner quand même toutes les équipes à l'heure actuelle qualifiées pour le mondial. Hein. Allemagne, Angleterre, Belgique, France, Espagne, Islande, Pologne, Portugal, Russie et Serbie dans la zone euro. L'Égypte et Nigeria en Afrique. Au CONCACAF, on a le Mexique, le Costa Rica et le Panama. Ça, c'est une belle surprise. Amérique du Sud, Argentine, Brésil, Colombie, Uruguay. Et donc en Asie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Japon et la Corée du Sud. Et puis surtout, il va y avoir des matchs de barrage. Et Dieu merci, heureusement qu'on a fini premier, parce que deuxième, on se tapait les Italiens, hein, Edouard.
Oui, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Disons aussi que chaque tirage que l'équipe de France tombe toujours bien. Dans un groupe qui n'est pas tellement... Hein, il faut le dire.
Quand on regarde les équipes qualifiées, à l'heure actuelle, quand on regarde les équipes qualifiées, on a trois favoris et un gros outsider. Et il y a encore 6 mois, je vous aurais dit oui, la France fait partie des favoris, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et quand on voit le niveau de jeu, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de travail à faire.
Attendons les choses. Le mois de juin. Ouais. Attendons de voir. Je suis d'accord avec le monsieur, celui qui vient de dire.
Benjamin.
Monsieur Benjamin. Hein. Parce que la France, c'est pas s'ils font exprès, toujours tombe dans un groupe qui n'est pas tellement. Et puis revenons aussi à. Vous avez discuté sur l'entraîneur du Real de Madrid. Je trouve qu'il fait du bon travail, même s'il a des. Ténor dans l'équipe, mais il faut les emmener quand même.
Il faut les connaître
quand même. Il ne faut pas dire le dire qu'il n'est pas bien.
C'est
il faut attendre.
De mettre Ronaldo sur le banc.
D'accord, oui, voilà.
Il nous a bien cassé en 2010 avec son coup de boule.
Alors, je vais vous donner les matchs de barrage quand même. Hein.
Non, c'est pas lui.
Je vais vous donner les matchs de barrage. Ouais. Irlande du Nord, Suisse, Croatie, Grèce, Suède, Italie, Danemark, Air, et puis dans la zone hors Europe, Honduras, Australie et Nouvelle-Zélande, Pérou. Voilà, donc il est.
Attention à l'Italie. Oui. Mille fois attention à l'Italie face à la Suède qui joue très bien au football, on l'a vu. Donc ça risque d'être compliqué à terme. Il devrait passer, mais ça va jouer au ballon.
Ils aiment les Italiens quand même, ce genre de situation. Hein. Passer par les barrages et aller au bout, c'est typiquement italien ça.
Bah, c'est très rare que l'Italie aille en barrage, que vous me disiez le Portugal.
En 82, ils ont été champions du monde de cette façon-là.
Bah, malheureusement, j'étais pas né en 1982, donc je me souviens pas. Mais sur ces 10 dernières années, la France est habituée au barrage et donc on est plutôt les spécialistes. Le Portugal aussi d'ailleurs. Mais voilà, après l'Italie joue très bien au ballon et.
L'Italie, leur jeu collectif est défaillant, on les attend jamais, mais on sait qu'ils seront toujours, peut-être pas dans le dernier carré, mais ils seront au moins en quart de finale, faut pas s'inquiéter pour eux. Si, comme dit Arnaud, s'ils passent les barrages, ils seront en quart de finale. Voilà, faut pas s'inquiéter pour les Italiens, même s'ils pratiquent pas un bon jeu, ils seront là.
Bon, et puis pour les matchs contre le Pays de Galles et puis l'Allemagne, hein, les deux derniers matchs amicaux, donc, qu'on va faire cette semaine, Fekir et puis Martial qui reviennent, c'est bien Arnaud?
Ben ça, c'est des bons choix, mais encore une fois, il y a eu une première liste début octobre, donc il y a un mois. Deschamps ne prenait pas Fekir et Martial. Pourquoi les prendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus par rapport à aujourd'hui? La question a été posée jeudi en conférence de presse. Didier Deschamps
Qui a répondu, Deschamps?
Ben, Deschamps a tenté de répondre. Enfin, il s'est noyé. Voilà, c'était une vraie noyade.
Et Fekir était blessé quand même. Oui, il est rentré blessé.
Il y a un mois,
pas du tout.
Il n'avait pas la forme qu'il a maintenant.
Tout à l'heure, on parlait de Lyon avec notre ami Stéphanois. Depuis le début de saison, Fekir porte l'Olympique Lyonnais à lui tout seul. Il est au meilleur niveau. Peut-être.
Il est souvent décisif, si c'est vrai.
Depuis le début de saison, il est décisif. C'est le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais.
Il porte l'Olympique Lyonnais, mais il porte aussi quelques kilos en trop. En début de saison.
Peut-être plus maintenant, Bruno.
Il s'est affiné. Ouais. Effectivement, ses prestations sont de mieux en mieux. Ouais. Donc, effectivement, le choix d'un joueur, à un moment ou à un autre, à 15 jours, 3 semaines, ça peut changer.
Hein. Bien sûr.
Oui.
C'était la polyvalence que lui reprochait Deschamps. Il y a un mois, lorsqu'il ne l'avait pas pris. Fekir n'était pas aussi polyvalent que peuvent l'être certains autres attaquants.
Fekir a repris le début de saison avec quelques kilos en trop. Hein, faut pas se voiler la face. Effectivement, quand tu reprends l'entraînement et que tu as eu une période d'arrêt assez longue, comme avec sa blessure, ça a été assez long. Forcément, après, il faut reprendre l'entraînement, s'affiner pour retrouver la compétition. Et effectivement, Fekir, il est dans une période ascendante. Hein, il n'y a pas à se voiler la face.
Benjamin.
Après, c'est sûr, comme dit mon collègue, les ligaments, on sait tous que c'est une blessure. On revient sur les terrains au bout de 7 mois, mais on n'est pas performant au bout de 7 ou 8 mois. Il faut forcément un an. On a vu par le passé beaucoup de joueurs mettre du temps. Après, Fekir, il profite aussi des absences, des blessures de Lemar, des non-formes de Payet, qui est même blessé d'ailleurs. Et aujourd'hui, le fait qu'il soit capitaine à Lyon, ça lui a donné un nouvel élan pour lui. Et aujourd'hui, en Ligue 1, c'est ce qu'il y a de meilleur.
Très bien. Ben, en tout cas, pour l'émission du mois prochain, on reviendra sur ces deux derniers matchs amicaux de l'équipe de France. Et puis, on n'oubliera pas que les tirages au sort de la phase finale, c'est le vendredi 1er décembre. Hein. Donc, on en saura un peu mieux et un peu plus sur les équipes que la France rencontrera dans cette phase finale. On passe aux Coupes d'Europe. Ça va vous plaire, hein, Juliette. Paris Saint-Germain, 17 buts marqués, 0 pour. Paris, donc, qui depuis notre dernière émission, s'est imposé assez largement. 4-0 à Anderlecht, 5-0 la semaine dernière au Parc des Princes. Tout va trop bien.
Tout va très bien, trop bien peut-être aussi, mais bon, moi je dis, il faut attendre encore. Celtic, bon, j'espère qu'ils vont faire le travail. Mais Bayern, il faudra faire attention et un match nul, ça m'irait.
Mais ils vont à peu près finir première en pouce, il faudrait que le Bayern gagne avec 3 buts d'écart, ça paraît quand même difficile.
Bon, ça va, après le Bayern, il faut qu'il fasse un match nul.
Arnaud, c'est pas trop beau actuellement, cette équipe du PSG finalement, rien ne résiste.
Ce qui est bizarre, c'est qu'à part le Bayern, le PSG n'a pas joué de grosses équipes. Le Anderlecht, c'est 9-0 sur les deux matchs. Le Celtic, il y en a eu 5 à l'aller, il y en aura peut-être encore 5 au Parc des Princes, peut-être 2. Enfin voilà, c'est une réelle démonstration. 17-0, ça n'a pas été vu depuis 1998 et Manchester United. Après Paris joue très bien au ballon, il y a City qui joue bien au ballon. Je vois pas le PSG perdre 4-0 à Munich. Bon, je vous rassure, je voyais pas le PSG perdre 6-1 à Barcelone non plus. Mais c'est pas la même chose. Je vois pas Munich tenter de jouer le match pour gagner 4-0. C'est une première place de poule. C'est pas non plus décisif.
Alors le paradoxe, c'est que bon, pour l'instant Paris est en tête, mais la Juventus est deuxième de sa poule. Le Real, après sa défaite contre Tottenham, est deuxième de sa poule. Imaginez que le PSG tombe sur la Juventus et puis le Real, ça serait fou quand même.
Bon, on va gagner. On va gagner la Juventus et puis c'est tout, il n'y a que ça à faire.
Oh, Juliette.
Après aujourd'hui, les équipes comme la Juventus qui est avec le Barça ou le Real de Madrid qui est en méforme, ils n'auront forcément pas la même forme au mois de mars. Aujourd'hui, on ne sait pas l'état du Real au mois de février. Et on peut s'apercevoir que là, aujourd'hui, Paris rencontre que des équipes faibles. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Anderlecht est très faible. Aujourd'hui, acheter Neymar, un top 3 mondial, heureusement que Paris gagne par au moins 3 buts d'écart. Et j'attends de voir des joueurs comme Thiago Silva. On en fait rappel l'année dernière sur des grosses écuries.
Pour sa méfiance, Jean-Pierre.
Ah ben, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Le Paris Saint-Germain, ils ont fait un très gros recrutement, mais de les voir jouer, moi, je trouve que c'est un peu lassant, quoi, de les voir faire des scores aussi énormes que cela. Et puis, je vois un peu plus loin. Je vois quand même qu'il y a le recrutement de Neymar et de Mbappé. Mbappé n'est pas au summum de sa forme. Oui. Et je pressens quand même, parce qu'on voit que Unai Emery a du mal à gérer ces gros joueurs. Et j'ai peur, dans quelques mois, d'avoir des problèmes. interne au niveau du PSG.
Je pense que... effectivement, on peut affirmer que le PSG n'a pas rencontré de grosses équipes, hormis le Bayern de Munich. Mais on peut aussi se poser la question sur la composition de Ancelotti au match aller, pour le Bayern, qui avait fait une composition d'équipe un petit peu atypique. D'ailleurs, ça, je pense que ça lui a coûté sa place. Maintenant,
il a été lâché par ses joueurs.
Oui. Bon, maintenant, je pense que le Bayern va être aussi avec un nouvel entraîneur. Bon, il y a les automatismes et les façons de travailler de chacun. Bon, il est possible que le Bayern essaye quand même de remonter parce que on sait que les Allemands n'aiment pas perdre non plus. Donc, la petite gifle qu'ils ont eue au Parc des Princes, à mon avis, les a un petit peu perturbés. Maintenant, il faut savoir que si le PSG finit premier et qu'il tombe contre un deuxième, style Real de Madrid, il faut savoir que malheureusement les compétitions les années suivent et que les résultats sont pas toujours identiques. Après. Et puis méfions-nous d'éventuels outsiders, puisque faut quand même se rappeler que l'année dernière Monaco a été un des outsiders. C'est-à-dire il n'est pas dit qu'il n'y ait pas un autre club en Europe qui vienne se mêler un petit peu à la bataille. Donc méfions-nous de tout le monde. Et puis si on veut gagner une Coupe d'Europe, faut battre tout le monde.
Monaco c'est bien justement parce que ça va permettre de faire la transition. Monaco c'est out, c'est pratiquement éliminé, battu par Beşiktaş 2-1 donc chez eux. Ils ont fait un bon match quand même, peut-être le meilleur match de leur saison donc cette semaine là-bas en Turquie, mais un partout ça va être insuffisant. Dernier de la poule avec 2 points, c'est très 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 compromis quand même.
Leur sort n'est plus entre leurs mains.
Après clairement fallait pas s'attendre à autre chose. La politique de Monaco, on sait ce qu'elle est. Quand on enlève Benjamin Mendy, excusez-moi, qui part à City, qu'on enlève Bernardo Silva, qui a régné au milieu de terrain l'année dernière, Bakayoko, ça fait déjà 3 joueurs. Je parle pas d'Mbappé. Voilà, vous avez votre réponse. Après, derrière, faut recruter ou faut se contenter de jouer l'Europa League ou la Ligue 1.
Ouais. Très bien. Allez, la pub, la musique, et puis on repart cette fois-ci au niveau donc de l'Europa League.
Dis donc, tu as quelque chose de prévu mardi ?
Ben non, pourquoi ?
Mardi, c'est mon jour shopping au Bel Air.
Ah bon ?
Oui, tous les mardis, tu peux gagner le remboursement de tes achats dans les boutiques du centre commercial et au Carrefour.
Pas mal du tout, ça. Ça vaut la peine de changer le jour de ses courses. Et comment ça marche ?
Ben viens, je t'emmène et je t'expliquerai en route.
De gagnant chaque mardi sur tirage au sort. Détails de l'opération dans votre centre commercial Bel Air, route nationale 10, Rambouillet.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Cette émission, naturellement, vous pourrez la réécouter en podcast, hein, dès le courant de cet après-midi. Alors, on va revenir à l'Europa League. Là, on a des chances d'avoir pratiquement tous nos clubs pouvoir se qualifier. D'abord, à l'image de Lyon, hein, qui est allé gagner à Everton 2-1, qui a écrasé Everton 3-0. Lyon, premier de sa poule, à égalité avec Bergame.
Alors, autant je suis d'accord pour Lyon. Maintenant, quand je jouais à la prestation de Marseille, où j'ai failli m'endormir devant
Ouais, mais ils sont quand même deuxième. Hein. Pour l'instant, ils sont deuxième et puis Nice est deuxième. Donc, il y a possibilité mathématiquement de se qualifier pour les trois.
Marseille a joué contre Guimarães, qui était au fond du trou. Puis, avec ce résultat-là, ils peuvent repasser aussi et espérer se qualifier. Et puis Nice, qui était parti sur une bonne dynamique. Ça fait deux matchs en Europa League où c'est pas le top non plus. Bon, c'était la Lazio en face, c'est pas les premiers venus.
Zaghi, entraîneur. Voilà,
entre autres. Alors, effectivement, peut-être Nice passera. Moi, j'ai quelques craintes pour l'OM. Mais encore, on leur espère aussi de passer.
Enfin, mathématiquement, pour l'instant, c'est jouable. Les trois clubs peuvent passer.
Alors, les trois clubs peuvent passer la phase de poule. Oui. Mais avec diverses.
Moi, je parle des phases de poule. Hein.
Diverses réussites. Hein. Je reste un peu sur ma faim sur le match. Effectivement, il n'y avait pas l'équipe type de l'OM aussi. Ok. Mais vu la prestation, j'ai fait une bonne sieste avant la télé.
Effectivement, on va rappeler que Marseille a battu Guimarães au match aller 2-1, qu'ils ont été battus 1-0 donc à Guimarães. Donc effectivement, Marseille deuxième de sa poule, mais avec 6 points. Mais c'est vrai que tout est à revoir dans cette poule, Jean-Pierre.
Oui, tout est à revoir. Enfin, moi, Marseille. Marseille n'est pas vraiment n'est pas au maximum de sa part, mais je suis pas trop déçu par les matchs de l'OM avant celui de mercredi ou de jeudi là. Et puis il y avait aussi avec Guimarães, il y avait le problème Evra quoi.
Ouais. Alors, le problème d'Evra, on va donc en reparler. On va quand même dire aussi que Nice a été battu, effectivement, il y a 15 jours par la Lazio de Rome 3-1. Ensuite, la Lazio de Rome qui a battu Nice 1-0. Nice est aussi deuxième de sa poule avec 6 points. Là aussi, sur les deux derniers matchs qui restent, on peut penser que Nice peut le faire quand même.
Bah, c'est espéré hein, que les deux derniers matchs de phase de poule servent de déclencheur et de prise de conscience à des clubs comme Marseille et Nice. À savoir que Nice c'est pas très bien non plus au niveau championnat. Ouais. La dynamique de l'année dernière, elle a du mal à se remettre en route. Et est-ce que, alors, quid de ces phases de poule, en espérant que effectivement ces trois clubs français passent ces qualifications.
Benjamin, les trois clubs français peuvent passer en Europa League.
Alors, il y a de fortes chances que les trois passent. Après, le problème, c'est de savoir où vont-ils aller. Parce que passer les phases de poule, c'est bien. C'est un peu une spécialité française.
Ah, c'est pas le cas tous les années en Europa League. Hein.
En Lyon, l'année dernière, qui a accroché une demi-finale où ils sont complètement loupés, on a du mal. Lyon joue le jeu, mais l'équipe première. Garcia, du côté Marseille, fait beaucoup tourner. On n'a pas beaucoup de gens en championnat, on peut pas attendre beaucoup de gens en Coupe d'Europe. À Nice, les deux latéraux sont partis. Seri, c'est plus le même joueur que l'année dernière, et ça se voit sur le terrain.
Edouard, nos équipes françaises alors ?
Attendons de voir. Oui. C'est pas parce qu'ils ont. On les voit sur le terrain jouer. Mm-hmm. C'est pas pour dire, il faut pas dire qu'ils ont mal joué, ils ont mal joué. Regardez le but qu'ils ont pris, Marseille. Ils ont perdu 1-0.
Il y a une erreur défensive, hein, il n'y a pas de marquage.
Voilà, l'erreur défensive. Ouais. Alors, peut-être peut-être ils peuvent se qualifier. Pardon ? Les trois clubs.
Je parlerai pas Lyon parce que Lyon joue très bien au football. Oui, c'est pour ça que nos amis Stéphano peuvent avoir peur pour ce soir. Ouais. Mais Lyon joue vraiment très bien. Nice, bah c'est flippant. Marseille, c'est encore plus flippant. Marseille, enfin, je vais pas dire un très bon match. Ils ont fait un bon match contre le PSG. Un seul match dans la saison, et quand il fallait jouer un petit match de championnat, un petit match de Ligue Europa, et ben il y a plus personne. Marseille a recruté avec un budget de 150 millions d'euros. Les supporters marseillais vont cracher sur les bon, c'est la guéguerre Paris-Marseille, on la connaît, mais ils vont cracher sur les supporters parisiens. Sauf que quand on a un budget 150 millions d'euros, perdre à Guimarães, ben c'est la honte. Donc Garcia, là aussi il y a des choix un petit peu compliqués, il y a le problème Evra, donc à Marseille il va y avoir des...
On va en parler, hein, parce que Jean-Pierre disait qui, d'après lui, Marseille aurait été perturbé, on va en discuter.
Après quand on est professionnel, faut faire abstraction de ce qui se passe autour, et Evra de toute façon était sur le banc, il n'aurait pas joué, il n'y a pas eu de changement de composition au dernier moment. Voilà, Evra c'est le problème qui plombe le club depuis maintenant le mois de janvier, ce mec là a une expérience, il a un palmarès. Il a connu beaucoup de choses, faut pas l'oublier. Mais aujourd'hui, Evra est en train de plomber l'Olympique de Marseille. J'espère qu'il y aura un licenciement. Il y a une mise à pied qui a été prononcée cette semaine. J'espère maintenant qu'il y aura un licenciement parce qu'aujourd'hui, Evra est plus un problème qu'un avantage pour l'Olympique de Marseille.
Oui, alors justement, est-ce qu'il fait pas la saison de trop, Evra, à 36 ans, est-ce qu'il s'est pas vu trop beau? Est-ce qu'il pensait qu'il avait encore le niveau pour jouer en Ligue 1?
Enfin, moi, pour moi, il a plus de niveau. Enfin, depuis un an ou deux, il déconne complètement. Là, j'ai vu des vidéos sur avec Halloween, il est complètement à côté. Alors, de la plaque. Enfin, bon, voilà quoi. Donc,
c'est pas qu'avec Halloween. Aujourd'hui, Evra a sa petite vidéo tous les lundis matin, comme un vulgaire YouTuber sur Internet. Ouais, tous les lundis matin, il a sa vidéo pour Halloween. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, il y a eu une vidéo où il était clairement à poil avec une citrouille entre les jambes. Voilà, aujourd'hui, Evra est venu à Marseille pour ça, et c'est plus que ridicule. Et sur le terrain, il n'y a plus personne, il est sur les genoux complets.
Mais ce qui est sidérant, c'est qu'après son coup de pied, hein, on le voit être pris en photo avec des jeunes quelques minutes après. C'est quand même sidérant, c'est deux Evra complètement différents, quoi.
Mais Evra n'a pas un mauvais fond, il a simplement pété les plombs. Et de la part du supporter, c'est pas non plus intelligent. On peut se demander comment les supporters se retrouvent au bord du terrain à ce moment-ci.
Est-ce qu'il n'y a pas des voyous chez les supporters?
Mais il y a des voyous dans tous les clubs, dans les supporters. Voilà, c'est partout pareil. C'est pas qu'à Marseille. On va pas généraliser à dire les supporters marseillais sont des voyous. À Marseille, ils sont passionnés de football. Ils aiment le football et c'est pas le football qu'ils veulent voir aujourd'hui. Donc Marseille va y avoir un gros travail à faire, que ce soit à ce niveau-là, que ce soit sur le terrain, que ce soit au niveau de la direction. Avec une telle ambition, on a des investisseurs qui sont arrivés. On est là pour l'OM Champions Project. On veut gagner la Ligue 1. On veut aller en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, Marseille, il n'y a aucun fond de jeu, donc il y a beaucoup de travail à faire.
Et c'est l'image de marque aussi du club qui est entachée.
Oui, ça touche effectivement l'image de marque. D'ailleurs, la direction a tout de suite pris des sanctions. Après, est-ce que, plutôt que critiquer Evra directement, ce que tout le monde fait aujourd'hui, peut-être se poser la question, est-ce que c'était la bonne recrue à prendre par rapport au projet du club? Non. Se dire ça, ou faut pas oublier qu'Evra, il a eu une très très grosse carrière, capitaine de Manchester. Il a eu quand même des années où
plus de 80 sélections, mais on va pas le retenir, quoi.
Il faut y penser dans le foot. On crache sur le présent, mais on oublie beaucoup le passé. Ce qui se passe est grave du côté supporter comme de sa part. Mais aujourd'hui, peut-être que c'était pas le bon accord entre le club et le joueur. Mais n'oublions pas sa carrière.
Alors, Juliette, est-ce que l'image qui va rester des bras, c'est pas Naïsla et puis ce coup de pied, plus peut-être que ces 80 sélections ou que ces titres gagnés en Ligue des Champions?
Moi, je dirais c'est Naïsla qui est un peu plus, qui me touche davantage, parce que le coup de pied, déjà, il touche pas le gars. Et puis ensuite, les supporters sont des malpropres, je dirais. Il faut de nettoyer les clubs avec tous ces supporters qui sont là pour casser les joueurs, alors que ils peuvent pas toujours gagner, ils peuvent pas toujours tout faire, mais les supporters ont besoin aussi d'un bon nettoyage. Par contre,
Juliette.
Ben justement, Paris a nettoyé et là maintenant on est un peu plus tranquille. Par contre, aller chercher dans les Facebook ou je sais pas trop comment ces trucs ça s'appelle, les réseaux sociaux, aller chercher tout ce que fait Evra pour après le diffuser, alors là, les médias, je vous dis bravo. Oh, vous faites que des créneaux. Mais c'est lui qui diffuse, on n'a pas besoin d'aller chercher pour le montrer. que les gens cherchent et ils regardent, ça c'est leur affaire, mais moi, je ne suis pas allé chercher, je l'ai vu parce qu'on me l'a montré.
De regarder, hein.
On me l'a montré. Ouais. On me l'a montré parce que je regardais une émission. Alors on n'a pas besoin de montrer toutes ces choses-là à tout le public.
Regardez l'équipe 21. Regardez-moi l'équipe 21, ce qu'ils font.
Non mais non Edouard, je vais t'arrêter maintenant, à toutes les émissions, c'est pareil, on va taper sur les journalistes, sincèrement stop. Non. Ça joue sur le terrain. Non, les journalistes sont là pour parler de sport.
Il y a des choses qu'ils vont montrer. Juliette, montre pas Juliette. Tout. Quand il y a des problèmes dans les tribunes,
c'était la même chose il y a un mois, on est resté un quart d'heure là-dessus. On n'est pas là pour parler du travail des journalistes, on parle de football.
Non, mais attendez. Ce que je voulais dire. On demande et d'après moi, et c'est faux qu'il y a la vidéo pour les matchs. Ce que l'équipe 21 a montré, il vous dit, on montre la vidéo, ils ont mis ça pour montrer Ezra. La vidéo, mais quand même, oh, c'est quoi, ça veut dire quoi? Et dans les matchs de foot, ils passent pas la vidéo pour voir toutes les difficultés qu'il y a.
Les enfants,
mais c'est
pas
bien, ils ont passé leur temps à montrer la vidéo.
Je peux vous dire que Ezra, le souvenir que j'en garderai. Et j'ai eu une réflexion avec ma femme ce matin qui m'a posé la question. Il m'a dit, mais c'était un bon joueur. Et j'ai dit, oui, c'était un bon joueur. Ça a été quand même quelqu'un qui a eu des. Qui a porté le capitanat de Manchester, qui a gagné.
Ezra à Monaco, c'est un super joueur.
Voilà. Il a quand même gagné, je ne sais plus combien de Champions League.
Manchester, entre autres.
Mais ce qu'effectivement on retiendra, et moi le premier, c'est sa prestation à Nashna.
C'est ça qu'on va dire. C'est la question qu'on posait, quoi.
Éventuellement, ce qui s'est passé, mais encore une fois, tout le monde sait qu'il est grillé depuis un petit bout de temps et qu'il ne veut pas se l'avouer à lui-même. Mais à un moment, il faut faire son jubilé et puis tirer sa révérence et dire merci. Et à la limite, c'est pas inavouable à 36 ans de raccrocher. Mais faut se le prouver, se l'accepter.
Je crois que le problème est là.
Voilà, tout à fait. Voilà. C'est quelqu'un qui ne doit pas vouloir vieillir et qui malheureusement va faire des conneries. Il vieillit très mal. Alors effectivement, ça a été un bon joueur à un moment, quand il a eu 20 ans, quand il a eu 18 ans, quand il a eu 25 ans. Mais à un moment, stop. Comme Zidane qui nous a plombé notre Coupe du Monde 2006, on va retenir, moi personnellement, alors peut-être pas vous.
Il y a eu d'autres images, je pense, quand même.
Il y a eu d'autres images.
Oui, de tête qui marre en finale de Coupe du Monde, c'est quand même carré.
Oui, trois buts en Coupe du Monde, en finale. Mais je me souviens bien aussi de son premier match de qualification en poule, où il va mettre une gentille semelle à un joueur de l'Arabie Saoudite et qui se fait expulser. Et bien effectivement, à un moment, alors je reviens toujours, mais on va dire ça, c'était avant, on avait des joueurs qui réfléchissaient avant d'agir. Maintenant, ils sont impulsifs.
Bah non.
Bruno,
des gens qui
génération. On se rappelle d'un point Danemark à l'Euro en 84, la tête d'Amorous contre un joueur danois.
Oui.
Oui.
Hein? Effectivement.
Amorous,
mais c'était quand même. On le voyait pas. Alors maintenant, ça se répète assez souvent des joueurs et pas forcément que des joueurs français. Hein.
C'est pas qu'aujourd'hui.
Faut pas non plus.
C'est pas qu'aujourd'hui. Il y a 20 ans, ça existait. Il y a 30 ans, il y a 40 ans aussi. Il y en avait des mauvais gestes.
Oui, mais il y en avait, à mon avis, un peu moins souvent quand même.
En fait, ce qui se passe aujourd'hui, moi, ça me paraît dur d'entendre que de critiquer Zidane sur ce qu'il a fait pour l'équipe de France. Surtout qu'il faut se souvenir qu'en 2006, il est revenu. Bon, avec Thuram et Makelele, s'il revient pas, je pense pas qu'on est en finale de Coupe du Monde. Après, faut pas oublier que les années d'avant, il y avait beaucoup moins de vidéos, beaucoup moins d'émissions. Aujourd'hui, tout est filtré.
Moins de
télé. Et voilà, et il se passait les mêmes choses, sauf qu'aujourd'hui, on n'avait peut-être pas le temps, on ne jugeait pas l'importance de ces gestes-là. Mais il y avait aussi des gestes, rappelez-vous, Rummenigge, pour citer que ça.
Il y a des gestes qu'on montre, mais il y en a d'autres. Il y a des gestes qu'on montre, mais il y en a d'autres qu'on cache. Parce que si on va chercher dans bien des situations, je peux vous dire qu'il y a des gestes qui sont cachés. Et on cache ce qu'on veut bien cacher par rapport à certaines personnes.
Alors Juliette, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'un finalement le rôle d'un supporter, c'est aussi d'insulter un joueur, quel qu'il soit?
C'est pas d'insulter un joueur,
c'est de le remuer.
Tout comme un joueur de ne pas aussi insulter. Vous avez Gignac, tiens, je vais vous prendre, il est au Mexique lui, hein, qui a insulté et ridiculisé un supporter parce qu'il avait un maillot du PSG. Trouvez ça bien?
Mais Juliette, mais
vous
non.
Trouvez ça
mais
bien?
Comment peux-tu dire ça?
Et tu es à l'étranger dans un pays qui n'est pas le tien, tu vas ridiculiser quelqu'un parce qu'il a un maillot autre que le PSG Marseille?
Attends. As-tu vu les images? Il dit juste sur le ton de l'humour, ce maillot, il est moche.
Par contre,
ce maillot, maillot, c'est le plus moche du monde. Il dit ça en rigolant.
Par contre, j'ai vu le gardien de Lyon rayer le nom de Saint-Etienne sur le maillot de Coupe de France. Et là, ça, on l'a vu.
Ça, c'est scandaleux.
Bon, effectivement.
Ça, c'est scandaleux. Mais
effectivement, encore une fois, il faut passer outre ça, puisqu'on sait très bien qu'ils ne sont pas forcément tous, au niveau des supporters, très intelligents, et au niveau des joueurs, tous très intelligents. Voilà. Mais il y a encore des joueurs intelligents et des supporters intelligents qui sont là pour supporter leur équipe et encourager, même quand ça ne va pas, leurs joueurs. Voilà, pour moi, le rôle d'un vrai supporter, il est là. Et effectivement, le rôle d'un vrai joueur, c'est pas de tomber dans le panneau non plus, d'aller titiller le voisin d'en face parce qu'il y a les derbies. Les derbies, il était même pendé quand les premiers derbies étaient là, ce gardien qui était Monsieur Lopez, je crois, le gardien de Lyon.
Dans les deux sens, il y avait preuve.
Mais bien sûr.
On se souvient de Joël Bas qui va mettre une écharpe lyonnaise en face du cop. Voilà. On se souvient de l'année dernière des Lyonnais qui ont découpé des Stéphanois dans les deux sens.
Encore une fois, il faut passer outre ça. Et un vrai supporter, même quand ça va mal, il encourage ses joueurs. Et un joueur, il est bien content quand ça va mal d'avoir un supporter qui l'applaudit, même s'il se foire, même s'il met une casquette au-dessus du but. C'est ça le vrai. Alors, on est aussi dans une société où on veut regarder ce qui se passe chez le voisin. Mmh. Et alors, les gens sont en permanence sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la nouvelle société. Effectivement, nous, les vieux qui avons de l'âge, on n'est pas habitué trop à ça puisque les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque. Maintenant, on s'y met un petit peu. Mais effectivement,
faut qu'on amplifie le phénomène.
Mais bien sûr. Alors maintenant, les vidéos, les émissions comme l'équipe 21 qui, effectivement, il peut y avoir du bon. Mais c'est comme les journaux, c'est comme tout ce que vous voyez. Eh ben, on va voir toujours les trains qui arrivent en retard, on ne voit jamais les trains qui arrivent à l'heure.
Voilà, c'est ça.
Non, mais tout à fait d'accord avec mon ami Bruno.
Après, comme dit mon collègue Arnaud, il ne faut pas critiquer. Pour les passionnés sport de football, c'est super bien, toutes ces émissions. Ça permet d'interagir entre nous. Et tout est amplifié. Il y a une remise en question à faire de certains supporters, dont les Marseillais. Après, certains joueurs aussi doivent penser qu'aujourd'hui, ils vivent aussi de par les supporters. Quand on voit Lewin Kurzawa faire ce qu'il a fait sur son triple au Parc des Princes, c'est juste pas
cautionnable. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a mis le doigt sur la bouche. C'est ce que font tous les joueurs quand on les critique. T'as vu Tovev venir faire ça aussi, le doigt sur la bouche. Il n'a rien fait, il n'a pas craché sur quelqu'un.
Faut accepter d'être critiqué.
On sait le critiquer, mais quand ça se passe dans d'autres clubs, on ne sait pas le faire. Parce que ça arrive à presque tous les matchs où les joueurs viennent dire aux médias ou aux supporters j'ai fait ce qu'il fallait.
Les joueurs ne veulent plus accepter aussi les remarques des journalistes. Mais ça, il faut savoir qu'en faisant le métier qu'ils font, à un moment ou à un autre, ils vont être critiqués. S'ils sont bons, ils ne seront pas critiqués. S'ils sont mauvais, ils seront critiqués.
Oui, c'est le rôle aussi d'un journaliste. Il y a des joueurs qui sont ciblés.
Vous êtes plus censé avoir des critiques que si vous jouez bien.
De toute façon, il y a beaucoup de joueurs qui ne regardent pas la télé et qui ne lisent pas les journaux. C'est arrivé pour éviter effectivement les critiques. Bon, alors, on va parler du terrain. Bruno, ce soir, Saint-Étienne-Lyon, ce soir. Donc, vous craignez pour vos verts?
Au vu des dernières prestations, je les ai vus contre Strasbourg
On s'est ennuyé, partout, et puis Strasbourg qui gagne au tir au but. Là, il y avait une belle chance de tir au but, par contre.
Oui. Mais j'avais bon espoir que Ruffy en sorte un, mais non, ils étaient tous bien frappés. Et effectivement, j'ai quelques angoisses pour ce soir. Et puis que le meilleur gagne. De toute façon, la rivalité Saint-Étienne-Lyon, on la connaît depuis longtemps. C'est comme la rivalité PSG-OM.
C'est même plus fort que maintenant.
En fait, il faut savoir que d'où remonte cette rivalité entre Saint-Étienne et Lyon. C'est qu'à Saint-Étienne, ils étaient au fond de la mine, et à Lyon,
ils étaient les riches, contre les
Lyonnais. Donc, mais les gens et les joueurs sont sur le terrain. Je pense pas qu'ils aient certainement connaissance de ça.
Ouais, mais ils s'en foutent. Ils sont copains entre eux. C'est comme les Parisiens puis les Marseillais. Ils ont joué dans les deux clubs pour certains.
Encore une fois, que le meilleur gagne. Mais effectivement, pour mes petits Stéphanois, j'ai quelques craintes quand même.
Et pourquoi ils en arrivent? Alors, Paris Saint-Germain, assez nettement en tête, Juliette, après cette 11e journée, on attendra donc la fin de la 12e, donc 29 points, Monaco 25, Lyon 22, Marseille 21, et puis Nantes 20. On a le sentiment que les positions sont quand même très serrées après le PSG. Arnaud?
Oui, c'est serré. Après, c'est paradoxal. Moi, je trouve que ça joue très bien au football cette saison. Mais il y avait
beaucoup de buts.
Bah il y a beaucoup. Oui, c'est à mon avis on va encore battre un record vu que l'année dernière on avait approché à 18 près les 1000 buts, c'était déjà un record. On est parti sur les mêmes bases, je crois on a attendu 5 ou 6 journées pour avoir le premier 0-0. Donc voilà, il y a des équipes qui jouent très bien au ballon qui sont critiquées, mais il y a des équipes qui jouent bien au football. Moi, j'aime beaucoup Saint-Étienne cette année. Les Stéphanois sont un petit peu mécontents. J'aime bien Saint-Étienne, j'aime bien Nantes. Guingamp joue très bien au football, Angers également. Donc voilà, c'est un championnat qui est relevé. Les places européennes vont coûter cher.
Alors deux grosses déceptions, c'est Nice naturellement et puis Lille. Surtout Lille.
Ouais. Bah écoutez, le problème à Lille, on n'a pas parlé, c'est Marcelo Bielsa. Bielsa, c'est l'entraîneur qui est sur un pied. El Loco, voilà, c'est El Loco ou El Fiasco, faut le voir comme on veut, mais c'est l'entraîneur mis sur un piédestal. Moi, je trouve qu'il y a. Il y a un gros problème de management à Lille, c'est une équipe qui est très jeune et je pense qu'il en demande un petit peu trop à ses jeunes joueurs.
Pour revenir sur le PSG OM du championnat, de partout, hein, c'est un match toujours un peu particulier. Paris, c'est pas vu un peu trop beau ce soir-là.
Mais voilà, ça me fait plaisir de vous poser la question parce que j'entendais Juliette dire il y a une minute, il n'y a plus de rivalité Paris-Marseille.
C'est fini.
Pour Marseille, c'est un match un peu quand même particulier. On sait que Marseille, souvent, ils sont mieux sont au niveau de jeu contre Marseille, le PSG que contre les autres équipes.
J'allais te répondre. Il y a une rivalité entre supporters parisiens et marseillais. Elle existe. On a vu les supporters. Laisse-moi finir. Non, tous les supporters. Tu vas demander à un Parisien quel club il déteste, c'est Marseille. Tu vas demander à un supporter marseillais quel club il déteste, c'est Paris.
Mais arrêtez.
Donc en fait, tu dis que c'est aucun supporter parisien. Mais sur le terrain, on a vu que les Parisiens n'avaient aucune envie. Dans cette équipe-là, il y en a quoi? Il y en a 2-3 qui connaissent la rivalité Paris-Marseille. Les autres sont là. On va pas se mentir, à Paris, c'est en majorité des mercenaires. Ils sont là pour venir jouer un match de foot. Mais il n'y avait pas l'envie d'un classico comme on aurait pu voir il y a 20 ans. Messieurs, vous l'avez sans doute plus connu que moi. Il y a 20 ans et même il y a 10 ans, et ça je m'en souviens à l'époque des Paoletta, Ronaldinho, les mecs aller sur le terrain pour jouer Marseille et pour manger Marseille. Aujourd'hui, ça n'existait plus. Il y a eu 2-2, ils arrachent un match nul miraculeux à la dernière seconde.
Ils tirent bien, le collectif marseillais contre les individualités parisiennes.
Et puis c'est bon, enfin écoutez, avant ils se battaient même dans le couloir avant d'entrer sur le terrain. C'était des histoires à ne pas finir.
Du temps de tapis Borelli.
Oui, mais il faut arrêter enfin. Là maintenant, il faut apprendre à être des joueurs corrects qui jouent au football et puis voilà, qui font plaisir à tout le monde.
Benjamin.
En parlant de correction, ils ont été un peu trop corrects, les Parisiens, parce qu'ils étaient à deux doigts de perdre. Ils n'ont pas respecté l'adversaire.
C'est ça.
Marseille s'est souvenu l'année dernière d'en avoir pris 5. Et ils n'ont pas fait les mêmes erreurs. Vous avez pu voir le match de Zambanguissa qui pourtant n'a pas une technique au-dessus de la moyenne. Il a fait craquer les Mars. C'était la tactique de Marseille. Ils ont joué avec leurs armes. Aujourd'hui, le match nul est miraculé pour Paris. Je pense qu'au match retour, vous apercevrez qu'il y a toujours une rivalité. Il y a toujours une rivalité Paris-Marseille. Vous apercevrez l'ambiance au Parc des Princes.
Oui. Bah, je crois que la réflexion de Mbappé en disant c'est un match comme un autre aussi un petit peu stimuler les Marseillais.
Pour lui, c'est normal. Il a du temps.
Mais quelqu'un qui est quand même assez fort devant les médias pour son jeune âge, je pense pas qu'il a mesuré l'impact de ses paroles. Et c'est vrai qu'après, pour regarder l'équipe 21, il n'avait pas tout à fait le même discours à la sortie du match. Parce qu'il avait pris conscience qu'en fait, c'était pas forcément le même match, c'était pas un match lambda.
Allez, il sait faire monter les bretelles. Hein, ouais. La deuxième page de pub, on y va.
Le restaurant Amaris à Rambouillet vous accueille dans un cadre agréable et chaleureux et vous propose de découvrir, le midi du lundi au vendredi, le menu express entrée, plat ou plat dessert à 15 euros. Le menu Amaris entrée, plat, dessert à 19 euros. Le soir du lundi au vendredi, son menu gourmand à 25 euros. Le restaurant Amaris, c'est une carte style brasserie avec ses plats traditionnels composés avec des produits frais du jour. Pour un moment privilégié, professionnel, entre amis ou en famille, choisissez le restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Bienvenue à la Galerie du Petit Paris de Ruchal, située en plein centre-ville de Rambouillet, en face de la librairie Labyrinthe. Venez découvrir un cadre agréable et convivial, sa brasserie, son salon de thé pour des moments entre amis ou pour manger. La Galerie du Petit Paris vous propose une cuisine traditionnelle avec des produits maison. Une formule à 14,50€ le midi, un menu à 20€ avec boisson, avec huîtres, moules, tous les jours, le midi. La Galerie du Petit Paris, de Ruchal, en centre-ville à Rambouillet, ouverte tous les jours de 9h à 22h et de 9h à minuit le week-end.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
cabanon, comme elle disait, elle dormait quand elle voulait, ne travaillait jamais. Pareo noué dans le dos, des fruits, des fleurs et des oiseaux, le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. Sous un baldaquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour, le grand amour. Ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais en anglais, en javanais. Nu, sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour, le grand amour. Ça n'existait pas. C'était l'amour, je m'y connais, jusqu'à ce jour de fin juillet. Elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail, de quelle erreur monumentale. L'amour, le vrai, le beau, c'était barré au galop.
Donc, pour finir cette émission, Jean-Pierre, juste la Ligue 2, je sais que vous vous en voudrez de ne pas parler du Stade de Reims, qui pour l'instant va bien.
Une minute, ouais, on est, le Stade de Reims est en tête de cette L2. Je pense que c'est une équipe impressionnante, très athlétique. Je pense qu'ils vont faire une grande saison. C'est un club bien structuré. Ils ont maintenant un centre de vie. Ils ont formé une bonne équipe, des gars très athlétiques, et je pense qu'ils vont faire une bonne saison. Il y a un match au Havre lundi, on va voir ce que ça va donner. Mmh. Mais enfin, ils ont l'air de ils sont encore invaincus, donc ils ont perdu un match.
Et puis le deuxième club de cœur d'Arnaud, c'est la Corse aussi. Arnaud, hein, il y aura peut-être un club Corse en Ligue 1 à nouveau la saison prochaine.
Il reste 24 journées. Ajaccio joue très bien au ballon, mais aussi on en parlait, en région parisienne on a Paris FC qui est 4e je crois. Mais voilà, puisque vous me donnez la parole sur la Corse, au football, bah, il y a le Sporting de Bastia qui se reconstruit. C'est une CFA2. Ils sont en train de chercher des failles juridiques pour remonter en National 1 directement. Mais Bastia aujourd'hui rejoue bien au ballon. Ils sont toujours invaincus après 8 matchs je crois. Donc voilà, la Corse... La Corse fait partie du football français, ça Juliette, faudra jamais l'oublier. Et la Corse reviendra au meilleur des niveaux.
C'est pour aller récupérer. Très bien, écoutez, merci à toutes et à tous d'être venus une nouvelle fois avec beaucoup de passion participer à cette émission. On retrouvera une bonne partie des titulaires donc la semaine prochaine. Juste, je voudrais finir avec Benjamin. Juste un petit mot sur l'Essonne, sur Imero, juste peut-être une équipe en nationale, hein, une la saison prochaine.
Voilà, enfin, peut-être la bonne saison, l'année de la montée. Fleury est premier avec 3 points d'avance. On attend la confirmation. Ils sont favoris, surtout que ne pas oublier qu'ils sont encore qualifiés pour le 7e tour de Coupe de France, où ils joueront en Picardie. Donc on leur souhaite la montée.
Très bien, merci à vous toutes, merci à toutes et à tous. Et puis rendez-vous donc pour Tribune Foot dans un mois, le dimanche 3 décembre. Et puis la semaine prochaine, ça sera le retour de Tribune Sport. Bon dimanche à l'écoute d'Herveux et à très bientôt. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Camus.